Chapitre 4, chapitre 5, si jamais vous trouvez au ciel entouré d'un groupe de personnes qui se sont prosternées, vous n'êtes pas en train de vous trouver entre un groupe de musulmans, mais un groupe d'anciens qui adorent devant le trône de Dieu. Le musulman, il se met à genoux en soumission devant celui qui a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'un musulman? Eh bien, pour introduire le sujet avant de parler de notre manière de partager l'évangile avec les musulmans, il faut quand même comprendre un peu qui c'est cette personne. Au Maroc, il y a quelques années, je suis allé visiter un chrétien, s'appelle Mahmoud, et dans son village à Benimaral, dans les montagnes, en Afrique, magnifique, il m'a présenté un ami. L'ami a dit, ah ben, pour toi, c'est toi qui es le chrétien là. J'ai dit, et qu'est-ce que c'est exactement toi, être chrétien? Ben, c'est-à-dire que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis à lui. Il m'aime, je l'aime. Il me répondit, je suis sûr que j'aime Jésus plus que toi. J'aime tous les prophètes. Comment répondre à cela? Comment un musulman pourrait-il dire une chose pareille? En fait, il n'y a qu'un musulman qui peut dire une chose pareille. C'est la seule religion non chrétienne qui peut parler de Jésus ainsi. Qu'est-ce qu'un musulman est-il violent? Est-il homme de paix? Croit-il à la guerre sainte? Est-il arabe, mêlé, indien, africain, américain? Qu'est-ce qu'un musulman? C'est quelqu'un qui aime Jésus plus que moi, d'après lui. Nous sommes les héritiers des stéréotypes injustes au sujet des musulmans. Notre idée au sujet des musulmans est semblable peut-être à celui qui croit qu'en Amérique, c'est toujours le pécoral. Hein? C'est vrai à Euro Disney, mais tout ça à Dallas. Il faut revoir nos stéréotypes et comprendre le musulman d'aujourd'hui. Et que faut-il pour briser l'emprise du monde musulman? Plus d'annonce d'évangile à la radio, plus de cours par correspondance dans la presse. À ce moment, dans ces pays, il faut autre chose. Il faut des martyrs. Voilà ce qu'il faut. Les chrétiens soft auront très peu à dire à celui qui est prêt à donner sa vie pour Allah. Très peu à dire à celui de l'autre côté qui va mettre sa vie en danger, qui va être coupé de toute sa famille s'il accepte l'évangile que je suis en train d'annoncer. Difficile à inviter un musulman à être rejeté par sa famille, à devenir STF au nom de l'évangile. Si je ne suis pas prêt, moi, à faire pareil. Mais déjà, ce n'est pas si évident que ça d'arriver à une telle discussion avec un musulman. Il y a dans la relation entre le christianisme et l'islam deux éléments difficiles à un autre jour. Le premier, c'est que le dialogue entre les deux religions est presque inexistant. Plus que toute autre religion, l'islam résiste à la discussion. Toute forme de prosélytisme est dans un pays musulman strictement interdite et punie par la prison. En Malaisie, en arrivant avec un groupe de chrétiens, on nous a dit, dès l'arrivée à l'aéroport, vous êtes des chrétiens, on vous avertit. Vous parlez avec les musulmans au sujet de votre foi, vous avez 2 ans de prison. Après, on en parlera. En Égypte, avec Francis Fahim, peut-être il y a certains qui ont pu le rencontrer, il nous explique que dans les tunes, à travers la ville de Caire, pour mettre 2 ou 3 cours publics dans chaque boîte aux lettres, de partout dans la ville. Pourquoi? Pour ne pas pouvoir avoir des traces d'où vient son évangélisation. au Maroc. En sortant du Maroc, on voit sur le papier que je suis un prédicateur. On me dit, le gars qui tamponne le passeport, « Ah bon, qu'est-ce que vous en pensez de l'islam ?» C'est aussi son rôle. J'ai répondu à ce moment-là, j'ai appris beaucoup de choses pendant ma visite. Deuxième élément troublant, c'est l'élan missionnaire de l'islam en Occident. Europe, c'est une situation idéale pour annoncer l'évangile aux musulmans. Nous avons la liberté de le faire. Mais le musulman avance aussi en Occident. Dans le temps, au premier siècle du Moyen-Âge, les musulmans ont failli conquérir le monde. Leur empire est allé jusqu'en Espagne, de l'autre côté de l'Indonésie, et c'était qu'en France qu'ils ont été repoussés par la victoire de Charles Martel, vous connaissez votre histoire, à Poitiers, hein? 732 dans le temps. Aujourd'hui, la croissance de l'islam en Afrique, en France, en Amérique, est phénoménale. En d'autres termes, les musulmans ont le taux le plus bas d'apostasie et le taux le plus élevé de conversion à ce jour. Avec bien plus qu'un milliard de musulmans dans notre monde, le défi pour nous est énorme. Avant d'aller plus loin, il faut faire connaissance avec les musulmans et leur foi. Faire de moi, c'est passer à côté de l'esprit de la protocole que nous avons dit hier, qui serait sûrement un musulman auprès des musulmans. Le mot musulman, enfin, corps islam, veut dire soumission. Soumission. Et le musulman, donc, est celui qui est soumis à Dieu. Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Le même Dieu que nous adorons, nous. La profession de foi musulmane s'appelle la Shahada et la voici. Il n'y a de divinité que Dieu. Et Mahomet est le prophète de Dieu. Celui qui est croyant peut dire, il n'y a de divinité que Dieu. C'est nous tous. Celui qui est musulman ajoute, et Mahomet est le prophète de Dieu. Mahomet est appelé pour les musulmans le sceau des prophètes et le courant, le livre des musulmans, le sceau de la prophétie. C'est-à-dire, le prophète et sa révélation sont les derniers, sont définitifs. Mais c'est-à-dire aussi, que la foi musulmane se repose sur des prophètes et des révélations précédentes. C'est-à-dire la parole de Dieu que nous avons, en partie. Les prophètes que nous reconnaissons nous aussi, en partie. Considérons les origines de l'islam, rapidement. L'Arabie du 7e siècle, Mahomet, qui est là, né en 570, vient de la Mecque, c'est la région d'où il vient, en Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Il est orphelin en grandissant. En 612, à l'âge de 42 ans, il reçoit sa première révélation de qui? De l'ange Gabriel. D'où vient l'ange Gabriel dans son histoire? Les racines chrétiennes qui étaient là. Alors, à la Mecque, il ressemble à peu près une centaine de personnes autour de lui, dans un monde pseudo-chrétien païen, polythéiste, tout ce que vous voulez, cacophonie religieuse. Et suite à la mort de sa femme, qui était son soutien fidèle, quelques années plus tard, il a cette grande vision qui est appelée le mirage. C'est le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. C'est le grand lien pour lui entre toutes ces villes qui sont importantes aujourd'hui aux musulmans. Et sans résultat à la Mecque avec toutes ces personnes, il fuit vers le nord avec ses fidèles et il s'installe dans une ville qui porte le nom aujourd'hui de Médine. Encore une grande ville musulmane. Médine qui veut dire tout simplement la ville du prophète. C'est sa ville. Et là, à Médine, il cherche à rallier des juifs à ses révélations, à sa mission. Et c'est encore l'échec.
Et à partir de ça,
nous avons les résultats conséquents pour nous aujourd'hui. D'abord, les musulmans, les fidèles à Mahomet, ne pourront plus vers Jérusalem comme ils avaient fait jusque-là, mais vers la Mecque. Première chose, changement, cause du rejet. Ensuite, ils vont se rattacher non plus à toutes ces paroles, tous ces prophètes, mais uniquement à Abraham, le vrai croyant, qui est le juif, les chrétiens. Le protocole va dire pareil. Abraham, il est bien, il est dans la circoncision, Abraham. Abraham, il a la foi, et puis il y a la circoncision qui vient après. Mettez votre confiance en Abraham, hein, tous les païens qui vont entrer dans l'église. Vous allez voir, vous êtes les fils d'Abraham aussi. Même idée. Même idée. Troisièmement, il appelle la révélation judéo-chrétienne altérée et déformée, parce que ça ne correspond pas avec ses idées. Le Coran est source, donc, achèvement de la perfection. Donc, l'islam sort en partie de notre monde judéo-chrétien, se repose en partie sur la parole de Dieu. Le Coran est reconnu comme parole de Dieu pour les musulmans. Les psaumes, les évangiles. Mais là, il y a des différences, c'est que nous, nous jouons avec un livre truqué qui était à l'origine correct. Seule femme mentionnée dans le Coran, c'est qui? Marie. Seule femme mentionnée dans le Coran, c'est Marie. Alors, nous avons tout intérêt à prendre comme point commun avec un musulman le personnage d'Abraham. Tout intérêt. Et nous avons à comprendre que les musulmans croient que notre Bible est truquée, que la parole que nous mettons devant lui est truquée, altérée, déformée. En effet, les musulmans croient que tous les prophètes, depuis le commencement, ont proclamé la même religion, la foi d'Abraham. Si d'autres religions, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, contiennent un enseignement différent, cela signifie que la révélation qui était pour les juifs et pour les chrétiens a été défendue. Le Coran dit en sourate 15, au jour du livre, notre prophète est venu à vous. Il vous explique une grande partie du livre que vous cachiez. Il en abroge une grande partie. On sait très bien que ce puis je prends, le Coran n'est pas d'accord avec les écritures. Il en résulte, selon le point de vue musulman, que nos écritures sont falsifiées. Considérons le Coran, enfin le Coran, pardon, en contraste énorme avec la Bible qui est écrite à travers des siècles par plusieurs hommes appelés par Dieu, le Coran est un livre canonique unique dont l'auteur, entre lui-même et Dieu, qui parle par la bouche du prophète pendant une période de 20 ans. Tout est là, à travers un seul homme, en peu de temps. Contraste énorme avec la Bible. Mahomet est à la fois envoyé de Dieu et prophète. Il recite la parole de Dieu, il était même alphabète, et la tradition orale s'installe, qui est par la suite écrite. Le premier texte officiel apparaît en 656, après sa mort, c'est le Vulgate d'Othman, pardon, Othman, voilà. Et vers le 10e siècle, nous avons ensemble le Coran qui est lu aujourd'hui. Il contient 114 sourates et 6000, dans là-dedans, 6200 versets, tout en langue arabe. Vient ajouter au Coran la Sunna, qui est la tradition, qui sont les exemples, les applications, qui s'appellent dans son ensemble hadith. La hadith, c'est un peu comme les actes, comme les épîtres, tous ceux qui s'ajoutent au courant, dans la pensée musulmane. D'accord? Et donc, il y a les sunnites que vous connaissez, qui sont la plus grande partie des musulmans, qui sont donc à la fois hommes du livre courant et appelés hommes de communauté, de consensus. Ils sont d'accord avec le consensus qui est la hadith, tout ce qui est la tradition qui va avec. Dans le Coran, on reconnaît Jésus comme prophète, on reconnaît Jésus né de la Vierge, mais on nie sa mort et sa résurrection, on nie que Dieu engendre, on nie que nous sommes créés
à l'image de Dieu. Rien ne touche à Dieu. Il est au-dessous et nous ne sommes pas liés à lui. Après le livre, le Coran, après le prophète Mahomet, nous trouvons dans l'islam cinq piliers, cinq articles de foi qui constituent le devoir religieux de tout musulman. D'abord, nous avons la Shahada, que je viens de citer. Il n'y a de divinité que Dieu et Mahomet et son prophète. On recite ça plusieurs fois par jour, devoir religieux de musulman. Ensuite, la prière rituelle, Salah. C'est cinq fois par jour que le musulman il va se mettre à genoux vers le Mecque pour prier. À l'aube, à midi, à 4 heures, coucher le soleil et avant de se coucher le même. Il va prier Dieu. Le Coran, intéressant, on demande trois fois par jour. C'est la sunna, c'est la tradition, Adam, qui en ajoute deux, qui fait qu'aujourd'hui on prie cinq fois par jour. L'ensemble des gestes et prosternations met en évidence la soumission du croyant musulman devant Dieu. Troisième article, le jeûne du Ramadan s'appelle Saoum. C'est s'abstenir de lever au coucher du soleil de toute nourriture et boisson pendant le mois. C'est le mois pendant lequel le prophète a eu ses premières révélations, apparemment. C'est le lien dans l'histoire. Le quatrième article, c'est le mot légal, Zaka. C'est pour une purification. On donne des biens aux autres et on se purifie en le faisant. Aujourd'hui, le Zaka est devenu un genre d'impôt, carrément, on le prélève, comme on fait pour nos impôts ici. Et aussi l'aumône volontaire qu'on appelle, qu'on peut faire en plus. Cinquième point, c'est le pèlerinage. Là, à la Mecque, on doit aller au moins une fois dans sa vie, si c'est de tout possible. Pèlerinage. Il y a ceux qui sont handicapés, d'autres difficultés, qui ne peuvent pas, ne sont pas obligés. Mais tous ceux qui peuvent doivent aller. Voilà les cinq piliers. Le shahada, la prière rituelle, le jeûne du Ramadan, l'aumône et le pèlerinage. On agite comme principe, comme devoir religieux, le jihad. Je dis un mot, ça me dit quelque chose, jihad. La guerre sainte. Le devoir de défense et de propagation de l'islam que le musulman se réclame. Maintenant, on met tout ça devant nous. Peut-être pour certains, vous avez tout entendu déjà. Pour d'autres, c'est la première fois que vous entendez tout cela. Comment annoncer l'évangile en musulman? Par où commencer? D'abord, c'est très simple. Mettez-vous en situation de rencontrer les musulmans. Allez à McDo aujourd'hui, ce soir, parce qu'il y a une jeune femme qui a un père algérien et une mère marocaine qui travaille à McDo. On l'a rencontrée hier soir. Elle est très sympa. Elle était très contente que Brady avait le sourire parce que c'était longue sa journée de travail. Il faut rencontrer des personnes. Rien ne remplace l'amitié. Cathy, Alexa qui est là, vont chaque semaine, toutes les deux semaines au centre social à Marseille et rencontrent des femmes musulmanes toutes les semaines. Il faut aller se mettre en contact avec ces personnes. Vous, peut-être, vous êtes en boîte et vous avez qui travaille juste à côté de vous à l'ordinateur, un musulman. Peut-être. Première chose à dire, chose bête, mettez-vous en contact avec ces personnes. Rien ne remplace l'amitié. Ensuite, rien ne remplace la connaissance de l'autrui et de sa foi. Il y a autant de couleurs d'islam que de chrétienté dans notre monde. Si on demandait comment convertir un chrétien à l'islam, quel chrétien? Catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, tout ce que vous voulez. Il y a encore en Égypte, il y a les Coptes, merci, pardonne-nous. Et les musulmans, pareil. Il faut commencer par son point de vue à lui sur l'islam. Au Niger, on trouve un pseudo-islam, ce sont des musulmans, mais ce sont des animistes en fait, qui pratiquent le genre de l'islam. Au Maroc, si vous êtes berbère, vous êtes arabe, grande différence à votre niveau de pratique, de votre foi musulmane. Au Maroc. En Malaisie, vous allez trouver les musulmans high-tech, ils sont tous à l'ordinateur, incroyable. En Amérique, beaucoup de musulmans parmi, les Africains, américains aux États-Unis. Alors, ils vous demandent de l'autre côté, qu'en pensez-vous du Coran et de Mahomet? Il faut pouvoir répondre à ces questions. Alors, enfin, Herbert Huppert, docteur en théologie, a fait sa dissertation sur l'évangélisation des musulmans, justement. Il insiste, après toutes ses études, sur l'amitié avec les musulmans. Et il pose la question suivante. Voulez-vous vous défendre devant les musulmans ou voulez-vous convertir les musulmans? Pourquoi il dit cela? Parce qu'il fait un constat, il dit, même lorsque nous gagnons le débat, et à chaque fois que nous gagnons le débat, nous ne convertissons pas la personne. Les musulmans ne seront pas convertis par le débat. Pourquoi? Pourquoi? Je vais entrer plus dans le détail, mais c'est parce que nous, nous venons d'un monde individualiste et eux, ils venons d'un monde communautaire. Nous, nous allons faire un et un comme ça. On ne fonctionne pas comme ça dans le pensée des musulmans. Le dialogue ici, voilà une très bonne question, à noter si vous notez, et à garder en tête si vous pouvez. Pourquoi êtes-vous venu en Europe? Combien de musulmans connaissez-vous qui sont d'origine française, suisse ou belge? Combien? Moi, j'en connais pas du tout. Ils viennent tous d'ailleurs. Ma connaissance, peut-être que je me trompe.
Deuxième génération.
Oui, deuxième génération, d'accord. Tout à fait. Ok. Ok. Voilà, mais ça c'est juste. Donc il y a deux choses.
Il y a beaucoup de femmes suisses qui sont
devenues épousées des musulmans, elles sont devenues par mariage. D'accord. Ok. Tout à fait. Pour ceux, les maris de ces femmes, ceux qui ne sont pas encore de deuxième génération, une question à poser, c'est pourquoi êtes-vous venu ici? Qu'est-ce qui vous attire ici? Pourquoi vous ne pas aller dans un autre pays musulman? Hein? On peut mettre en valeur ce qui les attire ici, qui vient de notre fondement chrétien, la liberté, par exemple, de parler. Okay. Dire nous. Alors, en parlant avec les musulmans, quelques pièges d'eau, je vous donne à éviter, et puis quelques obstacles, quelques défis pour nous dans ce contexte. D'abord, comme je viens de dire, il faut comprendre le fonctionnement social de nos musulmans. Presque d'office, faute de notre culture, nous coupons des individus de leur famille, de leur groupe social, par l'évangélisation. C'est une perte immédiate de crédibilité. Voilà comment ça marche, c'est une mission classique, missiologie. On va à McDo, on rencontre la jeune femme, on dit tiens, viens rencontrer, on fait tout avec la jeune femme qui a des frères et des sœurs, mère et père, grands-parents et toute une famille. On va la convertir, c'est très bien. Et avec toute la famille, qu'est-ce qu'on reçoit? Alors, voilà la logique. On a quelquefois qu'ils vont aller au Togo. Ils vont aller au Togo, ils vont s'installer dans les villages et au lieu d'aller vers le chef du village pour parler l'évangile, ils vont trouver le petit-fils du chef, ils vont parler avec le petit-fils du chef, ils vont convertir le petit-fils du chef. Qu'est-ce que le chef il va penser de tout cela? Nous sommes des individus. Non. Le petit-fils de mon voisin bon français qui ne croit à rien de tout, il va même peut-être avoir discuté, mais ce n'est pas la même chose. Il y a un aspect communautaire à reconnaître dans le monde musulman. Il faut reconnaître ça. À nous de changer et gagner le respect de toute une famille, de parler, de témoigner devant toute une famille, de demander à faire connaissance avec le papa, avec le grand-père, avec tout le monde. Alors, en tant qu'amis, voilà ce que nous pouvons faire.
la foi proprement dit avec la personne, nous pouvons entrer dans cette famille, dans cette situation, pour la connaissance et comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Deuxième élément, à part notre histoire individualiste qui vient de notre côté, c'est comprendre le passé des musulmans au sujet de l'islam. Comment je vais là? Ça va. On va mettre quelque chose sur le tableau pour voir si vous connaissez un peu les parallèles. Jésus, je m'excuse pour ceux qui ne voient pas, vient là. Jésus, Bible, Paul, Église. Qui peut m'aider avec les correspondances en, pour l'islam? Les paroles des imams, ça serait la tradition de Hadith. L'église, ok. Et
l'équivalence. Je fais des fautes de balance.
C'est bon? On arrive à peu près. Bravo, vous avez fait 10 sur 10. Par contre, pour le musulman, vous avez un zéro. Jésus, Fils de Dieu, venu du ciel, parfait, jamais caché, intouchable, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous vos sentiments que vous avez au sujet de Jésus, le musulman, il a au sujet de son livre. Ce qu'il faut reconnaître. Au livre, on ne touche pas. La Bible, donc, correspond pour lui à quoi? Tout ce qu'on exprime par ce qui s'agite à l'intouchable. C'est-à-dire la hadith. C'est ça, la hadith ici. Mahomet n'est pas fils de Dieu, Mahomet n'est pas intouchable, Mahomet c'est un prophète, c'est le dernier, c'est un prophète. En fait, son histoire correspond beaucoup plus au niveau personnage, ça c'est pour le Nouveau Testament, c'est juste personnage d'Ancien Testament, c'est David. C'est un homme qui avait plusieurs femmes, c'est un homme qui démarrait toute une nation, tout un royaume. Il y a beaucoup de parallèles entre la vie de Mahomet, dans ce sens, et David. Là, vous trouvez vos correspondances. Il y a les guerres aussi. L'église et la mosquée non plus. La mosquée, c'est la communauté. L'église, vous pouvez même pas le voir, vous écoutez, c'est l'institution. Pour est musulman. C'est une institution politique, une institution d'État.
Pas l'histoire, justement.
C'est pas une communauté. Mais nous nous disons, mais Greg, tu as peur là. L'Église, c'est ça, c'est la communauté.
Oui. Oui. Voilà une chose à faire comprendre à un musulman.
Qui comprend bien que l'Église n'est pas la communauté, c'est une institution d'État. Alors, nous avons beaucoup à mettre en œuvre pour arriver sur le même niveau d'onde. Réfléchissez à ces choses, je fais vite fait à travers l'eau. Je reconnais. Mais voilà, vous pouvez aller travailler ces équivalences. Alors, quels obstacles réels pour nous? Alors, bien entendu, la première, enfin, la chose la plus frappante, c'est que le musulman unit la croix de Christ. Il met la pièce maîtresse du dessein de Dieu. Il met la venue du Fils de Dieu. Ce que rejette l'islam dans le christianisme, c'est tout le dessein de Dieu centré sur le Christ. Il n'y a pas donc de réalisation de règne ou de rédemption par la mort, par la résurrection, par l'ascension du Fils de Dieu. La naissance virginale de Jésus, oui, on reconnaît. Mais sa résurrection, non. Sa fonction prophétique, on reconnaît, oui. Mais sa fonction dans le salut, sa fonction sacerdotale, si vous voulez, comme sacrifice pour le péché, sa fonction de roi, on ne reconnaît pas du tout. Son autorité morale, en Jésus, oui, on le reconnaît, mais son autorité divine, pas du tout. C'est toujours la même pierre de chopement, c'est Jésus. Toujours. Ce qui est intéressant, un autre terrain sur lequel on peut travailler, c'est que les musulmans, à ce sujet, sont en train de rejeter les faits historiques. Car la foi chrétienne se repose sur des faits historiques. Jésus crucifié est mort à Jérusalem un jour précis dans l'histoire. Le christianisme, nous n'avons pas une foi qui est basée sur des idées, mais sur des faits historiques que les musulmans rejettent. Et si on rejette ces faits, eh bien forcément, il ne reste plus rien du christianisme. Voilà ce qu'on lit dans le Coran. Les Juifs déclarent avec fierté, nous avons tué Christ Jésus, le fils de Marie, l'apôtre de Dieu. Mais ils ne l'ont pas tué. Et ils ne l'ont pas crucifié non plus. Mais on a arrangé les faits pour qu'ils croient cela. Comme toute certitude, ils ne l'ont pas tué. Voilà ce que vous avez dans le Coran. Les musulmans croient que Jésus n'a jamais été crucifié. Voilà. C'est sûrement le dernier point à toucher et le plus difficile. Mais c'est l'obstacle fondamental, bien entendu. Le rôle, la personne de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Deuxième obstacle réel, c'est le fait que dans l'islam, il n'y a pas de séparation d'église et d'État. Encore, comme on l'a dit, société communautaire et non société individualiste. C'est aussi société où la loi civile et la loi religieuse, tout va ensemble. Il n'y a pas église et État, il n'y a pas de séparation d'église et État, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est difficile. L'islam touche à tout, social, politique, religieux. Et ça fait peur à notre monde occidental. Ça fait peur. Mais c'est un fait. Voilà. Donc lorsque nous entrons dans les discussions, nous avons à tout à prendre en compte. Très intéressant, lorsqu'on met les deux ensemble, hein, l'histoire et cette réalité, je vous donne quelques exemples. Lorsque les croissants se passent dans le temps, il y a 1000 ans, sont les chrétiens responsables, d'accord? On prend note. On passe à notre troisième point et puis on retourne au deuxième pour voir comment tout va ensemble. Troisième obstacle, c'est l'histoire. Pour le musulman, l'histoire est toujours actuelle. La parole dit 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. pour les musulmans, ce qui est arrivé hier, c'est comme ce qui est arrivé il y a 1000 ans.
Il n'y a pas de mouvement dans le temps pour tout ce qui est arrivé.
D'accord? Donc, le Qasad demeure grand tort des chrétiens hier. Et ce n'est pas de différence donc lorsque les Occidentaux envahissent l'Irak en 1991. C'est la même chose. Il n'y a pas de distinction entre État et Église. C'est un pays chrétien qui vient, c'est la même chose. On a pensé musulmans, et ils sont encore en train de faire cela.
Qu'est-ce qu'on a à voir avec la guerre du Golfe?
Tout pour lui. Lui qui, dans sa pensée, ne sépare pas l'Église et l'État. Voilà comment on voit les choses. Obstacle, grand obstacle pour nous, quelque chose à reconnaître. Alors, il faut penser donc plutôt comment convertir une société. Mais déjà, pour convertir un musulman individuel, c'était difficile, et puis tu m'enlèves cette histoire d'individuel parce que c'est communautaire, et maintenant tu parles d'une société. Oui. Difficile, il faut prier. Celui qui a ouvert la Chine, celui qui a fait tomber le mur de Berlin, c'est celui qui va faire tomber le mur musulman. Il faut prier. C'est toute une structure, toute une société. Il faut prier, il faut prier, il faut être présent. Il faut qu'on soit présent. Un dernier obstacle à mentionner, c'est notre monde païen dans lequel nous vivons et le fait que nous sommes parfois entraînés par la pensée de notre monde païen, nous les chrétiens. Si la société nous a dupés, nous n'arrivons certainement pas à avancer auprès des musulmans. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Les musulmans sont souvent notre plus grand allié dans notre société païenne pourrie. Comment? Qui défend la présence de Dieu dans le monde où il n'y a pas de Dieu? On a mentionné dans les discussions hier l'abbé Pierre qui s'est mis devant une foule qui a parlé de la fidélité qui était sifflée et tout et tout et tout. Quel accueil aurait-il reçu par un groupe de musulmans? Il aurait été applaudi. Comprendre à quel point notre monde païen est éloigné de la pensée chrétienne et à quel point sur certaines choses les musulmans y pensent comme nous, pour le comprendre. Mais notre monde païen nous dit, ça, ce sont des arabes, on ne faut rien avoir avec eux, il faut qu'on soit comme nous. Faites gaffe. Réfléchissez bien. Prenons la question du foulard. Allons-y. Prenons la question. Qu'est-ce qu'on fait? Croyons-nous que notre société bénéficie de l'interdiction des signes de la foi? Lorsqu'on vous enlève de, par la suite la possibilité de porter une croix, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on ne porte pas de croix de toute façon, ça ne regarde pas. D'accord? On vous enlève votre prière. On vous enlève votre église. Parfois, on ne se sent pas loin de ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Où sommes-nous par rapport à notre société? Notre société est un obstacle pour nous par rapport aux musulmans. L'islam nous lance le défi, êtes-vous chrétien, vraiment, ou païen teinté un peu de couleur chrétienne? C'est un défi. Nous conformons ou nous transformons notre société. Ça influence beaucoup de choses par rapport aux musulmans. Les musulmans, pour honorer Dieu, se mettront par terre devant notre monde occidental, athée, 5 fois par jour. Ils se prosterneront devant Dieu. Et nous, Nous avons à avoir une foi publique, car nous avons une foi publique pour les toucher. Et oui. Mais c'est être ridiculisé et tout et tout et tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants si le jour arrive, c'est pas la foulée, mais c'est je ne sais pas quoi pour votre foi, vous ne pouvez pas amener vos enfants à l'école. On vous refuse à l'école. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc nous avons un monde dans lequel nous vivons qui est obstacle aussi, il faut le reconnaître. Si nous avons compris cela, si nous pouvons prendre en compte ces obstacles, si à partir de l'amitié bien fondée, à partir de notre souci de bien comprendre ces équivalences dans la pensée musulmane, si nous sommes prêts à reconnaître les faits de l'histoire, à trouver des points à partir desquels nous pouvons partager notre foi avec le musulman et reconnaître que nous vivons dans un monde païen sans Dieu juste à côté de nous, nous sommes peut-être prêts à amener quelqu'un, encore toute une famille, tout un groupe, toute une communauté, à considérer l'évangile. Que faut-il faire? Tout simplement beaucoup, beaucoup de prières, après tout ce que je dis. Il ne faut pas bien entendu mettre ça à côté. Et puis, il faut amener et appeler les musulmans à étudier Jésus. Et ils vont étudier de deux manières. D'abord, ce qui compte le plus, à mon avis, c'est qu'ils étudient Jésus qui se trouve ici. Il faut qu'ils aient l'occasion d'étudier le Jésus qui est ici. Par votre amour, par votre service, par votre comportement, par tout ce qui est Jésus en vous, ils vont pouvoir étudier Jésus. Et pas avant. Certainement pas avant, va-t-on les amener à étudier sa parole. Abdel Kader, on le connaît de Lille, un homme qui a fui l'Algérie avec sa famille, sa vie en danger. Nous avons tout simplement été là, écoutés, aimés, donné des vêtements, donné un peu d'aide, donné tout ce qu'il fallait. Sa conclusion, il nous partage, je viens d'un pays qui a dit adhère à un Dieu de haine, je le cite. Et je trouve ici ce qui loue un Dieu d'amour. C'est pas compliqué. Mais il faut le voir. À partir d'une relation privilégiée fondée sur cet amour, nous pouvons montrer ensuite la nature de Jésus et nous pouvons poser la question clé aux musulmans. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le prophète Jésus? Il fait partie de nous les prophètes, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Demander des réponses. Et en entrant dans la parole, on trouve son cœur, sa compassion, son amour, le fait qu'il a guéri des gens qu'on ne voit pas dans le courant. Pas du tout cette attitude. Vous aimez Jésus plus que moi? D'accord. Vous voulez donc tout savoir sur lui? Vous voulez tout savoir sur lui? Regardons ensemble cette personne que vous aimez tant. Enfin, après avoir vu Jésus, après avoir entendu les paroles sur Jésus, il faut arriver à l'évangile, le plus dur. L'identité de Jésus, le sacrifice, la mort, la résurrection. Extrêmement difficile. Une idée pour vous qui arrivez là avec le musulman, ce n'est pas d'étudier les évangiles à ce sujet au début, mais d'étudier à nouveau Abraham. De retourner un point commun et de demander pourquoi Dieu a demandé à Abraham à sacrifier son fils Isaac. Ce n'était pas Isaac, c'était Ishmael. Bon, ça va. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve en Dieu qui demande ça? Pas évident. La dernière chose, Et ça nous arrive, grâce à Dieu, lorsque celui qui reconnaît tout cela est prêt à devenir chrétien, à vous, à rappelez-vous que vous devez être engagé tout le long pour la suite. Lorsqu'il est rejeté par sa famille, si c'est un individu que vous touchez, lorsqu'il devient SDF, lorsqu'il perd son boulot, si son patron le surnomme, qu'est-ce que vous allez faire? Quel engagement avez-vous en annonçant votre évangile? Enfin, l'évangile, vous qui l'annoncez. Prions, aimons.